Hier s'est éteint à l'âge de 84 ans l'un des plus grands chroniqueurs de l'histoire du Québec, M. Pierre Foglia. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai revu un petit peu mon alignement du jour pour aller rejoindre un autre chroniqueur que j'aime beaucoup, que je lis avec beaucoup d'intérêt, Alexandre Pratt de La Presse. Il est au bout du fil. Salut Alex!
Salut Jean-Philippe!
Comment vas-tu?
C'est sûr que c'est une nouvelle difficile à accepter. On savait qu'il était malade depuis plusieurs années. Il s'était plutôt isolé. Il parlait à peu de gens de la presse dans les dernières années, mais principalement à mon collègue Simon Drouin, qui est aussi journaliste au sport. Mais c'est sûr que ça fait quand même un choc. Pierre a fait partie de ma vie, de ma carrière pendant quand même une quinzaine d'années. J'étais son voisin de bureau à la presse pendant longtemps. Il venait pas souvent, mais quand il venait, on se parlait beaucoup parce qu'on avait plusieurs passions en commun, notamment l'athlétisme, le basketball. Puis Pierre, c'est drôle parce qu'il est entré à la presse en 1972 comme journaliste au sport, en fait comme chroniqueur au sport, où il a été à peu près jusqu'en 77, mais pour aller au général. Mais il a jamais vraiment quitté la section des sports. Quand il venait à la presse, il se voyait quand même encore au milieu de la section. C'est une section qui jase dans les derniers jours. Il lisait encore quotidiennement, il donnait du feedback encore à Simon sur ce qu'il lisait. Donc, c'est sûr que c'est quand même une journée difficile là, pour les artisans de la presse.
Est-ce que je me trompe ou tu as même déjà été son patron à une certaine époque?
Oui, oui. Quand même plusieurs années. Donc, on s'est d'abord connu comme collègue journaliste. C'est drôle parce que quand je suis rentré au stage, j'avais le bureau vraiment à côté directement. Donc, on s'est mis à parler là, puis c'était là qu'on s'est découvert quand même plusieurs passions communes. Et après, j'ai supervisé plusieurs couvertures olympiques. Pierre était souvent dépêché aux Olympiques, donc ciné, par exemple, Salt Lake City, Athènes après, puis Vancouver. Donc, je l'ai connu là, puis j'ai été son patron aussi aux Actualités Générales dans les dernières années.
C'est un monsieur qui, qui avait du coffre, là, qui avait du bagou, qui avait peut-être même un certain caractère. C'était comment être le patron de Pierre?
Non, mais en fait, c'est plutôt agréable. Je pense que... C'est sûr, on va se souvenir de sa plume qui pouvait être très acerbe, puis des fois, il pouvait vraiment pincer dans ses chroniques. Mais comme collègue, c'était vraiment un collègue en or. Moi, j'ai jamais eu de difficulté avec. Au contraire, c'est un journaliste qui adorait les plus jeunes. T'sais, il aimait ça les aider, il aimait ça les encourager. Il était généreux de ses contacts, il était généreux de ses conseils. Je connais des journalistes qui, encore, là, dans les dernières années, lui envoyaient leurs textes avant publication pour qu'il les édite, même s'il n'était plus à la presse, là. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été généreux. C'est quelqu'un qui comptait vraiment pas ses heures. C'est quelqu'un qui t'en donnait beaucoup. Là, t'sais, comme quand, mettons, je supervisais une couverture au sport, j'étais patron aussi plusieurs années, puis qui couvrait le Tour de France, puis qui te livre deux chroniques, 3500 mots par jour. J'ai été content là, de mettre du folio en page puis de l'offrir au lecteur.
Et est-ce que le Tour de France était son sujet sportif préféré?
Je ne sais pas si c'était son sujet sportif préféré, mais c'est celui qui a marqué les esprits. Il y a même eu un livre qui est sorti, un recueil de ses chroniques. Je pense que c'est un élément dans lequel il était très à l'aise. Il était vraiment un fin connaisseur de vélo. D'ailleurs, souvent, il finissait ses chroniques avec une prédiction sur qui allait l'emporter le lendemain. Puis ça s'est souvent avéré. Il y avait un amour profond pour les cyclistes, pour la montagne, pour les lieux, pour les paysages, mais pour les gens aussi. Puis ce qui distinguait la couverture de Pierre de tous les autres journalistes, c'est qu'en fait, il se concentrait pas ou peu sur le résultat. Des fois, il le faisait là, par obligation, mais essentiellement, il parlait des gens qu'il croisait, puis il parlait de la vie. Je veux dire, il parlait dans ses chroniques du fromage qu'il avait goûté, de l'aubergiste qu'il avait rencontré, des chats qu'il avait flattés, du café qu'il avait bu. Et ses chroniques, en fait, racontaient la vie du Tour et non pas seulement la compétition du Tour qu'on aurait pu avoir en prenant des textes d'Agence France-Presse. Pierre allait là où les autres n'allaient pas.
J'aime pas mettre nécessairement des étiquettes sur les gens, ouais. mais maintenant qu'on célèbre sa vie, qu'est-ce qu'était Pierre Foglia? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un columniste? Est-ce que c'est un chroniqueur?
C'est un chroniqueur, c'est quelqu'un qui chroniquait sur la vie principalement, mais il y a plusieurs façons là, de faire la chronique. Hein, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont rester chez eux et qui vont donner leur opinion sur une situation. Pierre a fait énormément de terrain, beaucoup plus que la majorité des chroniqueurs. C'est quelqu'un qui allait sur le terrain pour abreuver ses chroniques, pour avoir le feeling, puis surtout dans le sport, en fait, il a beaucoup couvert de Jeux olympiques, de championnats du monde, d'athlétisme, des combats de boxe, puis c'est ce qu'il nourrissait, en fait, c'est la matière première sur le terrain. La plus grande force de Pierre, oui, c'est sûr là, qu'il savait écrire là, de façon, je veux dire, j'en suis jaloux, là, je n'atteindrai jamais ce niveau-là, même pas proche, là. Mais sa grande, grande force, en fait, c'est son sens de l'observation. Il y a peu de journalistes là, qui sont capables de noter les petits détails. Tu sais, je peux penser à Yves Boisvert, là, qui le fait bien à la presse aussi, ou Simon Drouin, mais il avait un sens de l'observation très aigu et c'était le maître absolu de l'anecdote. Il est capable de ramasser une histoire en une courte capsule de deux paragraphes qui va te faire rire, qui va te faire sourire, qui va te faire pleurer. Puis, mais il était vraiment très, très bon, en fait, pour être capable de soutirer les confidences des athlètes et en tirer des textes magnifiques. Tu sais, j'en ai un en tête qui, à mon avis, sont meilleurs que publié au sport. En 1988, lorsque Guy Lafleur est retourné au jeu avec les Rangers de New York, la presse a envoyé Pierre pour l'interviewer à New York. Et après l'entraînement des Rangers, Guy Lafleur a invité Pierre à monter dans son Jeep. Puis ils ont fait le tour de New York, le genre Manhattan, toute la quête de Long Island, tout ça. Mais c'est un long huis clos qui a dû durer, je sais pas, 4, 5, 6 heures de conversation, puis dans lequel, en fait, l'entrevue porte pas tant sur est-ce que tu penses que tu vas jouer sur le deuxième trio puis sur l'avantage numérique. Ça parle de paternité, ça parle de ses amours, ça parle de ses ambitions, ça parle de la vie, mon vieux. C'était ça, les chroniques de Pierre Fournier.
Est-ce qu'il y avait de l'intérêt pour le hockey ou c'était comme la poutine quotidienne du peuple puis lui, il s'intéressait peut-être à des sujets un peu plus raffinés?
Ben, tu sais, en fait, il venait de la France, là, initialement. Donc, c'est sûr qu'il avait un intérêt pour plusieurs sports européens avec lesquels il avait grandi, dont le cyclisme, dont l'athlétisme. Il aimait beaucoup le basketball, mais il a couvert le hockey. Il a couvert le Canadien dans les années 70, dans les belles années.
Ah oui,
Il a couvert Coupe Canada, par exemple. C'est lui que la presse dépêchait pour couvrir ça. Puis non, il a couvert assidûment, même sur le beat, le Canadien pendant quelques années.
Écoute, est-ce qu'on a perdu le plus grand chroniqueur de l'histoire du Québec, Yann?
Ben, ouais, je pense que tout le monde s'entend là-dedans. Que si vous parlez aux gens de la presse, c'est sûr que tout le monde va vous dire oui. Là, pour nous, c'était le plus grand. Il est inégalé. Il y a un style qui lui est unique aussi. Là, souvent, on dit « Ah oui, il a essayé d'être imité, jamais. » Ben, mais pour vrai, je pense pas que personne prétend, je veux dire, vouloir imiter le style de Pierre ou l'accoter dans ce sens-là. Par contre, il a laissé plusieurs héritages à la salle de rédaction. Tu sais, je pense que le sens de l'anecdote, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup dans nos textes. Se concentrer sur l'histoire plutôt que les résultats, c'est aussi quelque chose qu'on remarque beaucoup là, dans les textes des journalistes, des sports. La presse, encore aujourd'hui, là, même si ça fait 10 ans qu'il est plus à la presse, parce qu'il y en a plein qui l'ont pas connu, il a quand même laissé un certain héritage dans la façon de travailler à la presse.
Et toi, s'il y avait un truc, un vieux conseil de vieux routier qu'il t'a donné au cours de ta carrière, que tu vas garder avec toi toute ta vie, c'est quoi?
Ben, je me souviens d'une fois où il avait rencontré une Olympienne, je me souvenais plus c'était qui, puis il est allé à sa conférence de presse, puis il avait posé aucune question dans la conférence de presse, puis après la conférence de presse, il est allé voir l'Olympienne, puis il lui a dit « Bon, maintenant, racontez-moi tout ce que vous leur avez pas dit. » Puis je trouve que c'est bon, puis c'est encore une technique que j'utilise parfois en pensant à lui lorsque je l'ai fait. Mais essentiellement, c'est de regarder, quand tout le monde regarde la couleur de la médaille, regarde d'ailleurs qu'est-ce qui se passe autour, puis c'est là que tu vas trouver ton histoire. Puis moi, c'est ce que je retiens de sa façon de travailler.
Wow! Quand j'ai vu la nouvelle sortie hier, comme je te dis, Alex, j'ai pas eu le choix de revoir mon alignement de match, puis de lui rendre hommage, et je pensais que tu étais le gars tout désigné pour le faire. Tu parles de conférence de presse, ouais. Et tu es allé voir Leila Annie après sa conférence de presse pour lui demander ce qu'elle a pas dit?
Non, parce qu'en fait, je travaillais sur l'hommage à Pierre, là, donc je devais être là hier, mais non, j'étais pas là pour ce qu'elle a dit.
Dis-moi, écoute, je sais que tu couvres cette semaine l'Omnium de tennis. Je suis curieux de t'entendre sur... tu as sans doute lu les commentaires de Leila là, qui était déçue de ne pas avoir fait les frais du programme de soirée. Ouais. Quelle est ta lecture de... Je pense pas qu'on peut parler d'une controverse, là, mais
ouais,
de cette...
Étonne, là, je pense quand même, ouais. Là, mais en fait, j'ai de la difficulté à comprendre la position de la WTA là-dedans, parce que ma compréhension, c'est que la direction du tournoi a fait pression auprès de la WTA pour modifier l'horaire, mais là, on dit ah, c'est injuste, parce qu'elle va avoir eu un avantage, tu sais, de plus de repos que d'autres joueurs. T'sais, on aurait déjà, on aurait été sur, à la frontière entre le premier puis le deuxième tour. Mais tu sais, à un moment donné, il faut juste se souvenir, là, un Omnium de tennis, à la base, c'est un spectacle. Il y a des spectateurs qui viennent regarder une performance, tu sais, c'est sûr que les séances de soir sont plus courues que les séances de jour. Je sais pas si vous avez vu les images de jour, là, mais il y a eu des matchs. Moi, j'étais à celui d'Emma Raducanu du premier tour. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde dans les estrades. C'était un lundi après-midi, les gens travaillaient, il faisait super chaud. Alors que les matchs en soirée, ils sont souvent pleins ou presque pleins. Donc, et puis Leila, honnêtement, pour l'avoir vu vraiment souvent jouer, c'est quelqu'un qui se nourrit de la foule, de l'énergie qui est autour d'elle. Elle est vraiment bonne là-dedans. Elle est bonne pour jouer avec la foule, pour l'embarquer. Et puis là, ben de jouer devant un stade, tu sais, qui est pas vide, plein, qui est ben pas derrière. Oui. T'as pas l'impression de jouer tant que ça à domicile. Je peux comprendre sa déception.
Puis tu sais, dans mon premier segment, je l'ai un peu vendu comme si on avait préféré mettre Eugénie sur le programme de soir, puis Leila sur le programme de jour. Là, puis je comprends qu'on joue pas les mêmes journées. Là, fait que on est
non,
pas.
Non, c'est ça en fait. Eugénie a joué avant hier, mais normalement, si Leila avait pas fait la finale à Washington, elle aurait joué une des deux premières journées. C'est sûr qu'il aurait mis le soir. Il y a aucun doute là-dessus. Là. Mais vu qu'elle a fait la finale dimanche...
À la place d'Eugénie, fait qu'on aurait mis Eugénie de jour, puis on aurait mis Leila de soir?
Ben oui, ils auraient pu jouer les deux soirs. Je veux dire, ils auraient pu jouer une dimanche, une lundi. Je veux dire, il y aurait eu plein de possibilités, là. Mais le fait qu'elle a atteint la finale dimanche, là, elle est arrivée lundi, je pense, à 2h du matin à Montréal. Et franchement, là, je pense, des fois, là, dans la vie, on n'est pas obligé de respecter toutes les règles, les i, les t, et tout ça, les points sur les i, les bases sur les t. Tu sais, il faut faire preuve un petit peu de jugement, puis des fois sortir des sentiers battus. Puis je pense qu'on aurait dû le faire.
Puis je suis d'accord avec toi, mais je pense que la WTA a dit, gars, on a Coco Gauff, tu sais, ouais, qui est dans l'élite mondiale, sauf erreur, et deuxième raquette mondiale. Ouais. Je pense que le débat, c'est pas Eugénie versus Leila, c'était plus.
Non, Coco contre pas la même journée, là.
C'est ça, exact.
Ça n'a pas rapport entre les deux. Jamais elle aurait joué lundi soir, là. Je veux dire, Leila, je veux dire, est arrivé à lundi à 2h du matin, ça serait pas arrivé. Là.
Fait qu'on a préféré Coco Gauff à Leila
en fait,
dans le programme de soirée.
On a préféré l'équité générale du tournoi. C'est ma compréhension, je n'ai pas parlé aux gens de la WTA, mais ma compréhension, c'est qu'on a préféré l'équité pour les autres joueurs du tournoi puis de ne pas donner un avantage à Leila pour le repos, mais en même temps, elle avait quand même joué dimanche, là, je veux dire, en après-midi à Washington.
N'empêche que je te pose la question que je vais poser à mes auditeurs au retour de la pause. Est-ce que tu sens, dans ce tournoi de Montréal, un intérêt plus grand pour Eugénie que pour Leila? Même si le parcours de Leila vient de se terminer, là, mais tu comprends ma question?
Bien, en fait, il y en aurait eu un plus grand, je pense, pour Leila si elle avait continué son parcours. Là, c'est déjà fini, celui d'Eugénie se poursuit. L'autre chose, c'est qu'Eugénie... ça fait la manchette depuis 4-5 jours parce qu'elle est aussi arrivée plus tôt à Montréal. Elle a fait des bains de foule. Elle a fait, je pense, 2 ou 3 conférences de presse déjà depuis qu'elle est ici. Donc, puis c'est la dernière fois. Elle est là. Il va y avoir d'autres fois. Elle est très jeune dans sa carrière aussi. Là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui prend sa retraite, qui est là pour la dernière fois. Elle a choisi de venir jouer à Montréal. Elle a gagné son match au premier tour. T'sais, si elle avait perdu 6-1-6-2 au premier tour, je pense que ça serait enfermé et qu'on n'en parlera plus. Puis si elle perd ce soir, je pense pas que dans 3 jours, on va encore parler d'Eugénie.
Non, certainement. La seule chose, c'est qu'on va avoir moins de Québécoises et Québécois à se mettre sous la dent au cours des prochains. Quoi qu'il y a Félix qui joue ce soir, là?
Oui, tout à fait. Non, il en reste encore. Là, puis la nouvelle formule du tournoi, il y a beaucoup plus de joueurs, ceux qui ne le savent pas. Là. Il y a 96 joueurs cette année, il y a un tour de plus. Mais on a quand même eu, je pense, 7 Canadiennes. C'est quand même plus qu'à l'habitude aussi. Ça fait quand même des bonnes histoires là, pour la première partie. Tournoi.
Absolument. Ben, mon ami Alexandre Pratt de La Presse, c'était un grand plaisir de t'avoir en ondes avec moi. Tu sais que je te lis avec beaucoup d'admiration, un peu comme tu l'as fait avec Pierre Foglia, et je trouvais que c'était important de lui rendre un dernier hommage.
Merci, Jean-Philippe.
Merci, à très bientôt. Alors voilà Alexandre Pratt du quotidien La Presse, un gars que je respecte beaucoup, et je pense que c'est le cas pour vous aussi. Et ben toutes mes sympathies à la famille de Pierre Foglia. Je pense à son fils, entre autres, Manuel, qui avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, la course Destination Monde.